Scrivens O, Scrivens A.
J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec la traductrice géorgienne Eteri Gavacheli ce mois-ci. En effet, je m'interrogeais sur la créativité dont doivent faire preuve les traducteurs tout en restant fidèles au texte initial. Ce fut aussi l'occasion d'aborder avec Eteri la revue annuelle Café, collecte aléatoire de fragments étrangers. Une revue d'un format conséquent, de très belles factures qu'on n'a guère envie d'écorner, mais qui nous régale par la découverte de langues mal connues, dites minorées. Bonne écoute. Bonjour Eteri.
Bonjour Marie.
Merci de m'accorder cet entretien. Alors on s'est rencontrés dans le cadre du Festival de Poésie Au Ma Parole, édition 2024, et plus précisément lors de la présentation de la revue Café, qui, merci de me corriger, regroupe les traductions de textes étrangers autour d'une thématique bien précise. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Alors, j'ai une première question, c'est depuis quand existe cette revue?
Alors, le premier numéro de la revue Café, donc collecte aléatoire des fragments étrangers, a été publié en 2019. C'était le tout premier. Le Café est né d'une envie de faire découvrir des littératures, des langues, ce qu'on appelle aujourd'hui minorées, au public français. Les langues minorées sont toutes ces langues, hors anglais, allemand, italien et espagnol, donc qui sont très peu représentées dans le champ éditorial français.
En fait, ce choix-là, c'est un choix politique, c'est un choix esthétique, c'est un mélange de plein de choses.
Alors, c'est effectivement un mélange de tout. Le Café, d'abord, c'est un collectif des traducteurs, une maison d'édition, une association et une revue. Donc, le collectif qui est à l'initiative de cette revue, c'était en 2019, ils étaient en fait tous, ces personnes-là étaient tous des étudiants à l'INALCO, Institut de langue et de culture orientale. Donc elles étudiaient toutes les langues dites rares. Donc ces personnes-là sont parties d'un constat, les langues qu'ils étaient en train d'étudier, enfin les livres traduits de ces langues-là, étaient très peu disponibles dans les librairies. Donc ils ont décidé en fait de créer ce collectif-là et cette maison d'édition-là pour promouvoir ces langues et ces littératures. Et pour collecte aléatoire des fragments étrangers, donc ils ont donné ce nom-là à ce collectif-là parce qu'ils voulaient insister d'abord sur le aléatoire, parce qu'ils ne savaient pas, d'une part, si le projet allait exister, pouvait continuer à exister, et aussi sur le choix des textes aléatoires.
Comment ça se passe pour ne serait-ce que fabriquer, je ne sais pas si le terme est juste, un numéro? Et d'ailleurs, quelle est la périodicité de publication de ces revues?
Alors, en 2019, ils étaient 10 Donc, ils étaient 10 qui étudiaient des langues différentes. Il y avait le chinois, le japonais, le persan, le grec, et ainsi de suite. Il y avait donc 10 textes de 10 langues différentes. D'accord? Donc, comme ils étaient 10, ils ont tous choisi un texte dans leur langue. Et donc, le premier numéro qui était sur le thème futur au pluriel est arrivé comme ça, parce qu'ils avaient tous un texte qui correspondait plus ou moins à cette thématique-là, sachant que la thématique, elle doit être prise au sens large, en général. C'est pour ça qu'il y a une introduction avant chaque texte, pour justement relier le texte qu'on présente à la thématique.
Et aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose, c'est-à-dire que le thème est choisi avant les textes ou finalement on recense.
Oui, alors le thème est choisi avant, tout à fait. C'est aussi un processus assez long parce que ce sont des thèmes en fait qui sont proposés d'abord par les membres de la revue. Donc, par exemple, une fois par an, on s'est réunis tous au mois d'avril pour un séjour traductif pendant 3-4 jours. Et à ces moments-là, on décide ce qu'on fait sur l'année. Et c'est à ces moments-là aussi que chacun propose un thème. Pas forcément un thème, on peut proposer plusieurs thèmes à la fois. Ces thèmes-là sont regroupés, en fait, ensemble. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui propose ville, frontière, pays, ça va être regroupé dans la même famille. Et on essaye de se limiter à 10. Une fois qu'on a tous donné notre avis sur les thèmes, on essaye d'avoir une liste de 10 à peu près, 10 thèmes. Et puis, il y a encore un choix à faire. C'est différent à chaque fois. Des fois, on fait juste un vote en interne. Soit c'est les lecteurs qui choisissent pendant les salons et les événements. Donc, on leur donne la liste de 10 et ils choisissent. Et en fonction du nombre de voix, on laisse 3. Finalement, on arrive à 3 pour en arriver qu'à un seul à la fin.
Ok, mais ça veut dire qu'il y a combien de numéros par an ?
Par an, il y a un seul numéro.
Un seul numéro, d'accord. Oui. Ok. Et alors, quelles sont les origines des membres de ce collectif ?
Donc, les 10 personnes qui ont créé ce collectif... elles étaient toutes étudiantes à l'INALCO à l'époque.
D'accord. Alors l'INALCO,
donc Institut de langue et de culture orientale, qui est situé à Paris. Et aujourd'hui, ils sont tous diplômés et traducteurs et traductrices confirmés. Moi, personnellement, je n'ai pas fait les études à l'INALCO. J'ai rejoint l'association en 2020 pour le numéro 2 de la revue. Et donc, depuis, en fait, l'association est ouverte à tous, de toute façon. Donc, chacun peut proposer un texte et chacun peut devenir membre de l'association à partir du moment où ils ont un intérêt pour la traduction.
Mais les personnes ne sont pas forcément d'origine étrangère.
Non, c'est très rare. Je crois qu'on est deux. Surtout, ce sont surtout des personnes d'origine française.
Je le dis pour les auditeurs. Etheri, tu es géorgienne d'origine.
Oui, je suis née en Géorgie et je suis venue en France à l'âge de 23 ans pour poursuivre mes études.
Gaumardjos Sakartvelos da Gaumardjos Europas.
Მუსიკა არის ყველაზე დიდი ევროპელის გია ყანჩელის. Thank you.
Alors, concernant le métier de traductrice, parce que c'est ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, puisque cette émission essaye de décrypter les processus de création littéraire et poétique, et le travail de traducteur ou traductrice se situe aux frontières de la création, je pense, je trouve en tout cas. Moi qui ai fait des versions latines, c'est vrai qu'il y avait vraiment un travail stylistique important à faire, tout en respectant le sens du contenu initial. Donc, concernant le métier de traductrice, qu'est-ce qu'exige ce travail? Quelles compétences en particulier?
C'est une vaste question et je pense que chaque traducteur ou chaque traductrice a son avis, même si ça converge souvent. Pour moi, la traduction, avant tout, c'est une question de sensibilité. La sensibilité au texte et aux langues, aux deux langues qu'on va travailler pendant le processus de traduction. Comme tout exercice, l'exercice de traduction a aussi ses contraintes. En fait, le traducteur est la dernière personne qui va lire le texte dans la version originale avant que le texte soit porté au lecteur français pour ma part. Et le traducteur est aussi la première personne qui va lire ce texte en langue française. Donc, je pense qu'il y a quand même une grande responsabilité de partir d'un texte, d'une langue, et d'en arriver à une autre langue. Mais, comme je disais, c'est une question de sensibilité et aussi de la compréhension du texte. En fait, il faut identifier le message, d'abord, que l'auteur a bien voulu passer par ce texte-là. Il faut identifier les faux amis, il faut déchiffrer les mots polysémiques, éviter les contresens, ficeler une phrase de façon à ce qu'elle fasse partie de l'intégralité du texte.
Attends, j'ai pas compris le verbe que tu as utilisé. Ficeler.
Ficeler, oui.
Ficeler, dans le sens...
Construire.
Construire.
Construire la phrase. Et après, ce qui... Je pense que enfin, je sais pas, au niveau des compétences, c'est pas les compétences que tu m'as demandé, c'est des...
Compétence, le terme est un peu trop peut-être lié au registre du travail, du travail quotidien, sans forcément éprouver du plaisir. Alors que j'imagine que quand on fait le choix d'être traducteur pour une revue comme Café Collecte de Fragments Étrangers, on y va par plaisir, par goût.
Oui.
Donc,
oui.
Qu'est-ce qui anime ce goût pour la traduction? Tu l'as pour partie dit. Et comment tu compléterais ces mots déjà que tu nous as donnés?
Pour moi, c'est de relier les deux cultures et les deux langues qui sont les miennes aujourd'hui. C'est un besoin, une envie et une nécessité presque, c'est vital pour moi de le faire. J'ai toujours voulu de faire quelque chose pour travailler avec ces deux langues-là, avec ces deux cultures-là. Et quand je réfléchis et que j'ai voulu retourner à mes études littéraires, je me suis dit que c'était peut-être une bonne solution de faire la traduction. Parce que ça me permet d'être proche des deux langues, de deux cultures, de ne négliger aucune, ça a son importance quand on a une double culture. Et oui, c'est un plaisir parce que c'est un plaisir de faire découvrir la littérature de mon pays aux Français. Et c'est aussi un plaisir des mots.
Voilà. Aussi bien français que géorgien.
Oui. Je me retrouve des fois à me bloquer sur des mots géorgiens, sur les phrases géorgiennes, sur les mots et les phrases françaises aussi, à me dire « mais c'est pas ça, mais je ne sais plus comment c'est ». Et ça m'arrive dans les deux langues. malgré que le géorgien soit ma langue maternelle, il m'arrive des fois de ne pas trouver les mots justes et de ne pas pouvoir traduire avec justesse. Et là, je sens que c'est plus le moment, en fait. Pour moi, la traduction, c'est aussi une histoire du moment. Je traduis quand je me sens prête. Je ne peux pas traduire à tout moment de la journée, ni partout. Il faut que, en fait, mentalement, je sois prête. Et quand je sens que je suis bloquée et que je n'arrive plus à avancer dans la traduction, c'est fini pour ce moment-là. Et je sais qu'un autre moment viendra où je reprendrai le texte.
Donc, je ne sais pas si on peut parler de nécessité presque, en tout cas de besoin, peut arriver à n'importe quel moment où tout de même tu as une forme de discipline, quitte à laisser le texte en plan si tu ne parviens pas à arriver à tes fins, mais est-ce que tous les week-ends ou en début de soirée, en fin d'après-midi, je ne sais pas, est-ce que tu as un rituel quand même d'approche du texte à traduire?
Je ne sais pas si on peut parler de rituel, de discipline. C'est vraiment, en fait, à partir du moment où j'ai lu le texte et je me suis dit, ça c'est un texte que j'aimerais beaucoup traduire, ce n'est peut-être pas le moment de le faire. Mais je sais que ce texte-là est quelque part sur la liste de mes traductions à venir. Et donc, je peux être, je ne sais pas, dans la nature en train de marcher ou dans la cuisine en train de cuisiner et me dire, oui, c'est ce texte-là, c'est ces moments-là, c'est maintenant. Et ça peut commencer juste comme ça. Je peux tout arrêter, prendre un crayon, un papier brouillon et de commencer à écrire, ou juste allumer l'ordinateur et de commencer à écrire. Souvent, quand je traduis des poèmes, j'aime bien quand même de lire avant, quand je sens que l'envie et le besoin arrivent, j'aime bien prendre un livre de poésie et de lire quelques vers avant et même pendant la traduction. C'est pour laisser en fait la poésie contrôler mon esprit.
Laisser infuser.
Oui, c'est ça.
Beaucoup d'auteurs travaillent comme ça, à l'inspiration. Est-ce qu'on peut dire que tu es une traductrice inspirée?
Je pense qu'il n'y a jamais d'écriture sans inspiration. Donc on est obligé d'être inspiré, oui. Mais on peut inspirer par... pas forcément par le texte. Le texte, il est là, on sait qu'il est quelque part et le moment doit venir où l'inspiration arrivera. Et l'inspiration peut venir d'un mot juste perdu comme ça, qu'on a entendu parce que quelqu'un en parle, ou alors juste un souvenir qui va réveiller un mot, une phrase dans l'esprit. Et c'est ces moments-là qui inspirent en fait le début de la traduction pour moi.
Donc tu vas entendre un mot, une phrase qui va te ramener à un texte que tu as dans ta liste de textes à traduire. Et là tu te dis go, c'est le moment.
C'est tout à fait ça.
Quel point commun, quelle différence pourrais-tu lister, énumérer, peut-être que c'est un bien grand mot, mais pourrais-tu donner entre un écrivain et un traducteur? Quel point commun et quelle différence selon toi?
Pour moi, un écrivain a le champ libre. C'est lui qui crée le texte. Il est libre d'écrire ce qu'il veut dans son texte. Nous, les traducteurs, on écrit, c'est de l'écriture et c'est de la création, mais c'est un texte d'un autre. On part d'un texte d'un autre. Donc on a nos contraintes. On ne peut pas parler d'un sujet qui nous tient à cœur avec nos propres mots. Non, ce sont les mots de cet auteur-là qu'il faut écrire en langue française. C'est ça la différence entre les deux.
Tout à fait, mais Etheri ne va pas être inspiré ni au même moment, ni par le même mot que tel ou tel autre traducteur. Donc j'imagine que d'une traduction à une autre, beaucoup de choses changent.
Oui, tout à fait. Il y avait un traducteur qui disait que donnez à 100 traducteurs un texte à traduire et vous aurez 100 traductions différentes. Mais c'est vrai, c'est vrai. Un texte que je traduis aujourd'hui, si je le reprends l'année prochaine, ça ne sera plus la même traduction. Pour moi, la traduction, elle est vivante. C'est pour ça qu'à un moment donné, la question de retraduction se pose. Il est important de retraduire certains textes parce que l'époque a changé, parce que le vocabulaire a changé, parce que les lecteurs ont changé. Donc oui, c'est pour ça que je disais aussi au début de cette interview que la traduction était une question de sensibilité. Je vais traduire le texte de cet auteur avec ma sensibilité, mais tout en respectant le message qu'il a voulu passer par ces textes-là.
Donc en fait, c'est une forme de compromis entre sa sensibilité, la sensibilité de l'auteur, la tienne, mais aussi le contenu. C'est-à-dire que le contenu est là, mais j'imagine quand tu énumérais les failles dans lesquelles il fallait pas forcément tomber, c'est-à-dire la polysémie, tu dois être très scrupuleuse concernant le fond où tu te permets, parce que tu te dis, oui, l'auteur a écrit ça textuellement, mais finalement, étant donné sa sensibilité et son histoire, il a peut-être voulu plutôt dire ça. Est-ce que tu te laisses une marge de manœuvre ?
Alors, il y a deux cas qu'on peut aborder pour répondre à cette question. Le premier, c'est que la philosophie des cafés, et aussi la mienne, c'est qu'il faut laisser passer l'étrangeté dans le texte traduit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lisez une traduction, vous devez sentir que c'est une traduction et ce n'est pas un texte écrit en français à la base. Par exemple, si vous lisez dans un texte « Je vous rendrai ce livre quand l'âne grimpera sur l'arbre », qu'est-ce que vous comprenez ? Jamais. Je ne vous rendrai ce livre jamais puisque l'âne ne grimpera jamais sur l'arbre. Pourquoi je vais utiliser une expression toute faite en français qui dit « quand les poules auront les dents » alors que quand l'âne grimpera sur l'arbre, vous comprenez quand même que c'est jamais. Donc c'est cette étrangeté-là qu'on veut en fait faire apparaître dans les textes traduits. Après, il y a des moments où on ne peut pas. Il y a des moments où c'est impossible. Alors il y en a qui vont parler de « intraduisible » et d'autres qui vont dire que ce sont juste des contraintes un peu plus contraignantes. Et là, dans ces cas-là, il faut effectivement jouer avec des mots. Je peux vous donner un exemple.
Oui.
En géorgien, on dit célibataire, on dit martochela. Ça veut dire seul et bras, et avec un suffixe à la fin, ce qui veut dire celui qui a un seul bras. Mais ce n'est pas unibraciste. Unibraciste existe déjà en géorgien. C'est lui qui a vraiment un seul bras physiquement, un manchot. Donc, seul bras, celui qui a un seul bras, donc celui qui est célibataire, le mot géorgien, veut dire qu'il n'est pas accompagné. Parce que les bras, on est censé avoir deux bras et on n'en a qu'un seul. Je ne pouvais pas faire unibraciste, je pouvais tourner dans tous les sens, je ne pouvais pas le transformer en célibataire, en une personne seule, qui vit seule. Donc il a fallu que je trouve une autre solution. Je ne sais même pas si ma solution et c'est la bonne.
Mais quelle
c'est
est-elle
celle.
On a envie de
c'est celle qui m'est venue à ce moment-là. Donc j'ai fait dire au personnage que donc c'est un grand-père qui dit c'est mon meilleur ami, c'est un homme bon, mais il est seulé. Donc il est seul, il vit seul. Et donc, il y a les deux petites filles des jumelles qui disent « Mais ça veut dire quoi, ce lait ? Ça veut dire que cet homme est laid ?» Et donc, le grand-père qui rigole et dit « Non, 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 mais c'est le mot qui veut dire « il est célibataire ». Donc, c'est la solution que j'ai trouvée à ce moment-là. C'est possible qu'une autre traductrice ou un traducteur aurait trouvé autre chose, ou peut-être que dans 10 ans, je trouverai un autre. Mais il a fallu quand même contourner cette expression-là, ce mot-là, et le dire autrement, tout en suscitant la même émotion auprès du lecteur. C'est-à-dire, c'est un mot un peu étrange qui est difficilement compréhensible par un enfant.
Est-ce que tu dirais que c'est un exercice intellectuel ou un exercice lié à l'imaginaire ?
Ou les deux ?
Les deux, oui. Les deux. Je pense qu'il faut avoir de l'imagination et dans la langue source et dans la langue d'arrivée.
Je me demandais à quel moment tu considérais qu'un texte traduit était abouti ? N'avait plus à être touché.
Je me dis que c'est bien qu'il existe des dates limites pour rendre les textes. Ce serait trop difficile. Je dois avoir plusieurs textes dans mon tiroir, dans mes tiroirs qui sont finis, mais je sais que à chaque fois que je vais les ouvrir, je vais devoir modifier quelque chose. Donc un texte, je pense qu'elle n'est jamais finie. C'est comme je disais tout à l'heure, je vois un texte l'année prochaine, j'ai envie de retoucher quelque chose. Bon, on ne retraduit pas vraiment entièrement le texte, mais on va quand même apporter quelques corrections en se disant « Ah, mais j'aurais pu faire ça comme ça, ben maintenant que si on m'avait posé la question... » Parce que les temps changent, le vocabulaire s'enrichit, même... Personnellement, on s'enrichit au fur et à mesure qu'on traduit. Donc, on a peut-être un autre regard sur le texte.
Et justement, quand tu parles d'évolution, comment regarderais-tu la jeune traductrice que tu étais à tes débuts ?
Bah, je pense que je suis encore jeune traductrice. Parce que ça ne fait que 6 ans que je traduis. Mais je suis beaucoup plus sûre de ce que je veux. En fait, ce que j'aime dans la traduction, c'est de pouvoir choisir mes textes. C'est-à-dire, jusqu'ici, tous les textes que j'ai proposés à des revues ou à des maisons d'édition, c'est moi qui les ai choisis.
Donc, il n'y a pas uniquement que la revue CAF et tu... traduit d'autres publications, romans, nouvelles, essais.
Je traduis, j'ai publié dans plusieurs revues littéraires, donc des poèmes comme des nouvelles. Je traduis pour une maison d'édition qui est basée à Paris, qui s'appelle Médusa. C'est une maison d'édition spécialisée dans la littérature géorgienne pour les jeunesses. Et je travaille sur 2 romans actuellement. Dans le cadre de l'Archipelagos, qui est le programme pour les traducteurs littéraires, financé par l'Atlas, qui est à Arles. Donc c'est une très grande association de traducteurs littéraires qui lance des projets chaque année et qui attribue une bourse aux traducteurs pour qu'ils aillent à la recherche des nouveaux titres à traduire. Et dans ce programme-là, je suis partie en Géorgie, donc à Tbilissi, le printemps dernier, pendant 2 semaines, et je suis rentrée avec plusieurs livres, dont j'ai choisi, parmi lesquels j'ai choisi 2 romans qui sont prêts. Enfin, ils ne sont pas traduits, ce sont des extraits qui sont traduits avec la fiche de lecture et disponibles pour être envoyés aux maisons d'édition.
Donc là, en l'occurrence, ces textes ont été approuvés par l'Atlas.
Oui. Et au mois d'octobre, on a encore une semaine de résidence à Arles. On est plusieurs traducteurs à le faire. C'est pour enregistrer des podcasts, justement dans le cadre de l'Archipelagos, sur les titres que nous avons déniché pendant nos voyages.
Alors, quand tu dis podcast, les podcasts vont consister en des lectures ou au contraire à faire le tour des auteurs que vous êtes amenés à traduire?
Les podcasts vont être dédiés au titre que nous avons déjà choisi, donc les 2 romans que j'ai choisis, et on va parler de l'auteur, du livre. Et il y aura la lecture en français.
Alors du coup, c'est parfait parce que je voulais revenir à la revue Café Collecte de fragments étrangers sur le thème de la résistance. Et je me demandais pourquoi le choix de cette thématique. Est-ce que c'était un choix sociopolitique? Dans une société aujourd'hui en conflit et qui se devait, ne serait-ce que géopolitiquement, résister.
Comme j'ai expliqué, ce sont des membres qui les proposent, et après c'est le public aussi la plupart du temps. Donc cette année c'était le public. Oui, bien sûr que la situation géopolitique a son importance aujourd'hui, et le thème, c'est pour ça que ce thème-là a été choisi, a été sélectionné par le plus grand nombre de personnes. De toute façon, la philosophie des cafés, c'est aussi déjà à partir du moment où on a décidé de publier uniquement des langues rares. C'est déjà un engagement de la part de Café. On publie des langues rares, minorées. On publie des auteurs qui sont très peu ou pas du tout connus en France. On publie les textes. Les textes qu'on publie, c'est toujours la première publication. Ça veut dire que ces textes-là n'ont pas encore été publiés en France. On a eu 2 fois la rétraduction, et les 2 fois ces rétraductions-là ont été motivées et justifiées, parce que c'était des textes qui ont été traduits il y a très longtemps, il y a plus de 50 ans, et qu'il était temps qu'ils soient sous la lumière de projecteurs à nouveau. Donc, et puis les auteurs qu'on publie, c'est aussi des auteurs qui sont souvent, la plupart du temps, engagés dans leur pays. En fait, je pense que le thème résistance, il arrive au bon moment, mais ce n'est pas du tout étonnant, parce que si on revoit nos anciennes publications, donc le premier thème c'était futur, après c'était silence, après c'était naufrage, oubli, feu et résistance. Si on revoit les numéros précédents, les textes qui sont, de toute façon, pour moi, parlent tous de la résistance. Ce sont des textes soit qui ont résisté au temps, ont résisté au peuple, ont résisté aux mots, et ce dernier numéro-là, il est bienvenu.
Est-ce que parmi tous ces textes, tu en as un qui a ta faveur, auquel tu tiens plus particulièrement?
Alors, je connais bien le poème traduit du russe par Julie Bonin, qui s'appelle Vaïna, donc la guerre. Et donc, j'aime beaucoup ce texte. C'est un texte qui parle de la langue que l'auteur essaye d'enfuir, parce que c'est la langue de l'ennemi.
C'est la langue de l'ennemi, donc elle, elle essaie de l'enfouir.
Oui.
Je vois que tu ouvres la revue, mais avant cela, j'avais une dernière question à te poser. Pourquoi prendre autant de temps à annoncer ce qui va être traduit, à évoquer l'auteur, le contexte, etc.?
L'introduction a beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que les auteurs qu'on traduit ne sont pas connus en France, ou très peu. Donc, ça tient à cœur que le lecteur, avant de lire la traduction, le texte, puisse connaître un peu, juste un peu, l'auteur. Ensuite vient le paragraphe suivant, en principe, parle du texte ou de la situation géopolitique. Donc, si c'est un texte, par exemple, dans le numéro Feu, par exemple, de Café, le poème que j'ai publié parlait de la guerre. Donc, c'est impossible de proposer le poème traduit sans parler de cette période de guerre, de cette situation géopolitique de l'époque de 1992-93. D'accord ? Ensuite, vient aussi l'explication de le pourquoi et comment. Parce que tout le monde s'intéresse pourquoi on choisit ces textes pour ces numéros-là et comment on fait pour traduire et pour trouver les mots justes. Donc, on trouve que c'est important que l'auteur soit connu, que la situation géopolitique ou la situation ou l'œuvre en général de l'auteur soit connue et que le lecteur sache comment le processus de traduction se déroule.
Très bien. Alors, du coup, je vois que tu as ouvert la revue et pourrais-tu nous lire un extrait de Vaïna, à moins que tu aies choisi un autre texte?
C'est pas dans celui-là.
C'est pas dans celui-là.
Je n'ai pas encore résistance en papier.
D'accord. Donc,
je ne les ai pas encore
donc
récupérés.
Donc là, il s'agit de quelle
ça,
revue?
Ça, c'est le numéro 6 sur le thème du feu.
Sur le thème du feu. Alors, nous t'écoutons.
Donc, je vous lis le poème de Kato Djavarishvili. On l'entend, il tire. Gesmis isurian, zeda irtsolur txorizontze, xabi pikrebi xeegara datalgul napirz, amutzna uratkoat kceuli kalakiz ponze nijarebz datzlil waznebi bitzamadlot daugri, zitzari eles, togazabit antromizomebz, xli igonebidan, oms romelitz gamovigone. Zeo, sadakar, abkazeti gaukide tokze, zuelia djeratz, xeumxalek txomaz tremlebi, კადრები ჩემი წარსვლიდან ხმაურით მომდევს ფერად სარჭებში მომწყდოულან როგორც მძევლები და სარეცხივით გადაფენილს დრო რომ აქვავებს შეგრძნებებია ნაპირებად მე რომ დამშალეს. გესმის ისვრიან მე გიძილი ვისწავლე ღამით საიდან მოხვალ საით მიხვალ რა გზას მიხვევი ვინ ვარ როდემდე დაუმალო ფურცლებ სიტყვები გათენებულა სევდიანი ნამგალა მთვარის პროფილს გვერდულად ირეკლავენ ურჩი ტალღები. Хвеулит мебит, шенс руказе, давид алгеби. Гесмис, ომია მე გამყიდეს 30 ვერცხლად ისე ახლოს ვარ ახლა ღმერთთან როგორც არასდროს კავალერია გასწორდი და გახსენი ცეცხლი მაინც ხვალდილით მე სირცხვილის გრძნობა დამახრჩობს რომ კიდევ ერთხელ დავამცირე ჩემი ცხოვრება ტუჩის დამალვით კოცნას ზღვას რომ ემათხოვრება გესმის ისვრიან ზე დაიხრჩო ლურჩ ჰორიზონტზე.
Alors maintenant la traduction. Tu veux bien nous redonner le titre ?
On l'entend, il tire. On l'entend, il tire. Dans l'horizon bleu, le soleil sombre. Les pensées noires sont tombées sur la rive ondulée. Avec en fond, une ville étrangement pétrifiée, à la place des douilles, je répands des coquillages. Celle qui se drape du vide comme d'une toge, je la chasse de moi, la guerre que j'ai inventée. Où es-tu, soleil ? La brasier suspendue au fil. Encore mouillée, sèche ses larmes, je t'en supplie. Les séquences du passé qui à grand bruit me poursuivent sont prises en otage par des pinces des couleurs. Et comme le temps qui a raidi le linge étendu, mes sensations me décomposent en petits morceaux. On l'entend, il tire. J'ai même appris à dormir la nuit. D'où es-tu venu ? Vers où vas-tu ? Quel chemin prends-tu ? Qui suis-je pour refuser plus longtemps les mots au papier ? Le jour s'est levé, les vagues indociles reflètent de travers le profil désolé d'un croissant de lune. Je laisse envaguer mes cheveux ondulés sur la carte. On entend la guerre, je fus vendu pour 30 deniers. Je suis aujourd'hui plus que jamais plus proche de Dieu. Vous, les cavaliers, redressez-vous et ouvrez le feu. Quoi qu'il en soit, au matin, la honte va m'étouffer. Car une fois de plus, c'est ma vie que j'ai rabaissée, en privant mes lèvres du baiser qu'aimandé à la mer. On l'entend, il tire. Dans l'horizon bleu, le soleil sombre.
Merci beaucoup. Toute dernière question. Où et comment peut-on se procurer ces revues annuelles ?
Alors, les revues sont en vente sur le site de la revue Café, bien sûr, mais aussi dans les librairies. Donc, nous avons des librairies partenaires à Marseille, donc l'Hydre à mille têtes, l'Histoire de l'œil, Mima à la Pointe Rouge et l'Odeur du Temps au Vieux-Port. Voilà, ces quatre librairies à Marseille peuvent fournir les derniers numéros.
Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à cet entretien ? Est-ce que des idées t'ont traversé l'esprit pendant que nous avons échangé ?
Ben, je voulais d'abord te remercier de m'avoir accordé cette interview et merci pour l'intérêt que tu as porté à la revue Café et à la traduction d'une manière générale. Et merci au public qui nous suit, bien sûr, depuis le début de notre aventure.
J'espère que vous en aurez appris autant que moi et que vous n'hésiterez pas à filer dans les librairies marseillaises énumérées par Etheri ou à commander les numéros sur le site www.revucafetoutattaché.fr. Enfin, un grand merci à Radio Galère.